Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Le Nouveau Testament utilise des images pour nous aider à comprendre la relation qui existe entre Jésus-Christ et son Église. Dans la lettre de Paul à l'Église d'Éphèse, nous apprenons que l'Église est l'épouse de Christ. Que pouvons-nous apprendre de cette image? Étienne est de retour parmi nous pour nous en dire plus.
Ensuite, dans la deuxième partie de notre émission, Antoine nous rejoindra pour aborder le thème du mariage. Nos deux séries s'appuieront sur l'enseignement de Paul, trouvé dans Éphésiens chapitre 5, des versets 22 à 30, que Sandra va nous lire tout de suite.
Parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres, vous, femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme, comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps.
Merci. Étienne, bonjour et bienvenue sur le plateau d'Espérance aujourd'hui.
Merci Yann et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais simplement introduire notre thème. L'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Et c'est au cours de nos prochaines émissions que nous approfondirons ce que cela implique, en examinant plus en détail les vérités qui se dégagent du texte lu.
Que devons-nous alors retenir aujourd'hui? Comment introduire notre sujet?
En bref, ce qu'il faut retenir, c'est le fait que l'apôtre Paul compare la relation qui lie Jésus à son Église avec le mariage. Or, nous le savons, le mariage est une relation intime qui lie un homme à une femme, en principe pour la vie. Ainsi, Paul réfléchit sur le mariage en tant qu'institution, et à partir de là, il établit des parallèles avec la nature de la relation qui unit Jésus à l'Église. Paul procède ainsi dans un premier temps pour nous aider à comprendre toute la richesse de l'amour de Christ pour nous, et ensuite pour nous permettre de comprendre ce que Christ attend de l'Église, notamment en termes de confiance et de soumission.
Rappelez-nous donc ce qu'est le mariage.
Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, nous apprenons que Dieu créa l'homme et la femme pour vivre en couple et jouir d'une union intime, exclusive, fidèle. Nous retrouvons cette notion dans toutes les cultures et civilisations du monde, même si, dans ce monde touché par le mal, notre compréhension du mariage a tendance à partir à la dérive. Dans chaque culture rencontrée dans le monde, le mariage transmet un certain nombre de traditions, de coutumes. Il exprime aussi des attentes et des engagements. Lors de la cérémonie d'un mariage, l'homme et la femme font part de leurs engagements formellement, en formulant des vœux, et on parle souvent d'alliance. Le mariage est aussi soumis à des lois, à des règlements. Cependant, il représente essentiellement une relation d'amour entre un homme et une femme. Les lois relatives au mariage et les vœux échangés sont présents pour protéger le couple, qui jouit désormais d'une grande liberté pour exprimer son amour à son conjoint en toute confiance.
Merci Étienne. Mais comment appliquer ces notions à la relation que Jésus-Christ vit avec son Église?
Tout à l'heure, j'ai mentionné que le mariage était souvent considéré comme une alliance, c'est-à-dire un accord entre deux parties pour vivre dans le respect de certaines attentes et engagements plus ou moins contractuels. De la même manière, Christ et l'Église sont liés ensemble par une alliance, un accord ou un contrat. Christ s'est engagé à agir en faveur de l'Église. et l'Église, en retour, devrait tenir certains engagements envers Jésus-Christ. Christ est fidèle à l'Église. Il tient sa parole en accomplissant ses promesses envers elle.
Et quels sont ces engagements dont vous parlez ?
Nous en parlerons beaucoup plus lors des prochaines émissions. Nous pouvons affirmer toutefois dès maintenant que Christ s'engage à être le sauveur de l'Église. Il s'engage à la purifier, à lui pardonner toutes ses fautes et à la conduire vers la sainteté. Il s'engage à la garder, à la mener jusque dans la nouvelle création, là où elle jouira de la vie éternelle. Et il s'engage à la nourrir et à l'embellir.
Merci, c'est très beau. Et quand vous le dites, nous expliquerons tout cela en plus de détails tout au long de cette série. Nous constatons que Christ nourrit de beaux projets pour son épouse, l'Église. Mais qu'attend-il d'elle en retour ?
La confiance et la soumission. Comment l'Église doit-elle faire confiance à Jésus ? Et en quoi consiste sa soumission ? Une fois de plus, nous répondrons à ces questions lors des prochaines émissions.
Merci, ce sont des questions importantes. Mais voulez-vous ajouter quelque chose avant de terminer la première partie de notre émission ?
Oui, je viens de parler des engagements réciproques qui lient Christ et l'Église, mais je voudrais souligner aussi que cette relation privilégiée est avant tout et surtout une relation caractérisée par l'amour. Ainsi, tout au long de cette série, nous discuterons de la façon dont Jésus a aimé, et il aime encore aujourd'hui, son épouse, l'Église. Nous parlerons de toutes les riches qualités qui définissent Jésus-Christ et nous apprendrons comment l'aimer en retour.
Merci Étienne, nous avons hâte d'en savoir plus. En attendant de vous retrouver bientôt, nous vous disons merci et au revoir.
Au revoir et à très bientôt.
Oui, merci Étienne. À présent, Antoine nous rejoint sur le plateau pour participer à la deuxième partie de notre émission consacrée au thème du mariage. Comment construire un mariage solide, heureux et durable? Et que pouvons-nous apprendre de Christ dans cette optique? Voilà les questions qui nous intéressent.
Antoine, bonjour et bienvenue.
Merci Yann, et bonjour à tous.
Nous commençons donc une nouvelle série sur le mariage. Comment voulez-vous l'introduire?
Le mariage reste une préoccupation majeure pour de nombreuses personnes. Et cela est normal. Car Dieu nous a créés pour vivre cette relation privilégiée, exclusive et intime qui lie un homme et une femme. Beaucoup de célibataires se préoccupent de questions autour du mariage. Ils aspirent pour la plupart à se marier, à trouver la personne qui fera le bonheur. Puis beaucoup de personnes mariées réfléchissent sur des questions touchant au mariage, car elles découvrent tôt ou tard que cette relation privilégiée n'est pas toujours facile à vivre. Les couples mariés peuvent rencontrer des difficultés relationnelles, ils peuvent vivre des tensions et des conflits, et leurs belles attentes peuvent être déçues. Le mariage est la plus importante des relations personnelles que nous pouvons vivre. Il est source de joie et de peine, de réconfort et de soucis. Il est donc normal que les questions sur le mariage soient fréquentes. C'est un sujet qui préoccupe. Nous voulons des mariages heureux, mais comment y parvenir?
Merci. Ceci dit, quelle sera votre approche à ces questions tout au long de notre série?
Je vais adopter une approche biblique, et notamment m'inspirer du texte trouvé en Éphésiens chapitre 5, lu tout à l'heure. Si Dieu a créé l'homme et la femme pour vivre le mariage, il est important d'écouter ses conseils de sagesse à ce sujet. Si vous avez la chance de pouvoir acheter une mobilette neuve, vous remarquerez que le fabricant fournit un petit livret avec un manuel qui aide à l'entretien du véhicule. Ainsi, en temps de panne, il devient essentiel de consulter le manuel pour bien diagnostiquer le problème et chercher la manière d'y remédier. Il existe quelques parallèles entre la Bible et ses manuels d'utilisation. Dieu a conçu le mariage pour permettre aux hommes et aux femmes de bien vivre. Et dans la Bible, nous trouvons de nombreux conseils destinés à nous aider à construire et à maintenir un mariage épanoui. Ensuite, si nous faisons face à des problèmes au sein de notre mariage, la Bible est là pour nous permettre d'en comprendre la nature et la cause. La Bible est là pour nous aider à réparer un mariage tombé en panne. pour réconcilier un homme et une femme que les fautes et les tensions ont séparés. La Bible est là pour reconstruire un mariage sur de bonnes bases, pour donner de bonnes orientations sur la façon de vivre et d'entretenir l'amour.
Et ce thème de l'amour est de première importance. Comment votre approche biblique peut-elle nous éclairer alors?
Lorsque de nos jours on parle d'amour, on pense surtout à l'amour romantique, l'amour sentimental et l'amour sexuel. Et les médias mettent l'accent sur la réalisation du bonheur personnel à travers ces catégories de l'amour. En effet, la romance, les sentiments et les rapports sexuels trouvent chacun une place importante dans le mariage. La Bible d'ailleurs aussi insiste sur ce point. Toutefois, la Bible parle d'autres catégories de l'amour que notre monde a tendance à oublier ou à négliger. Pour construire un mariage solide et heureux, qui durera à travers les hauts et les bas de la vie, il faut bien apprendre à aimer son conjoint selon la définition de l'amour donnée dans la Bible.
Parlez-nous de cet amour. De quoi s'agit-il?
Nous y reviendrons souvent lors des prochaines émissions pour en parler plus en détail. L'amour dont je parle est celui qui pense aux intérêts de son conjoint, celui qui veut satisfaire ses besoins et qui l'aide à s'épanouir de façon très pratique et concrète, parfois en renonçant à soi-même, quitte à faire des sacrifices coûteux. Cet amour biblique est aussi caractérisé par des qualités telles que le pardon, la fidélité et la constance, la patience et la douceur, l'écoute et la compréhension, pour n'en nommer que quelques-unes.
Merci. Pour conclure, pouvez-vous nous faire part de quelques paroles sur le texte trouvé en Éphésiens chapitre 5 qui servira comme point de départ à nos discussions?
Oui. Comme l'a si bien exprimé notre invité précédent, Paul compare la relation que Christ vit avec son Église au mariage. C'est pourquoi il est juste et instructif de réfléchir aux engagements que Christ accomplit envers l'Église pour mieux définir nos engagements personnels envers notre femme ou notre mari. De même, il est juste et instructif de méditer sur l'amour de Christ pour l'Église, afin que cet amour façonne à son tour notre amour pour notre femme ou notre mari. Une fois de plus, nous y reviendrons pour en parler plus en détail tout au long de cette série. En attendant de vous retrouver, chers amis, je vous dis au revoir.
Merci Antoine. C'est ainsi que nous terminons cette émission. Nous espérons que vous serez nombreux à suivre nos deux séries s'inspirant de l'enseignement de l'apôtre Paul sur le mariage, d'après ses écrits en Éphésiens chapitre 5. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.